بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، après avoir vu dans la précédente allocution quelques textes religieux du Coran et de la Sunna authentique démontrant implicitement et explicitement le bien fondé, l'obligation et l'importance de réfuter le faux, et que les savants sont unanimes sur ce sujet, maintenant que cela est à l'esprit de tous, nous allons pouvoir, dans l'intervention d'aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, répondre aux ambiguïtés les plus répandues à ce sujet, afin de démontrer leur fausseté et de clarifier la dérive laxiste vers laquelle celle-ci mène. Ainsi, parmi les ambiguïtés qu'on entend le plus souvent lorsqu'une réfutation voit le jour, il y a cette parole « les réfutations causent la division et n'apportent que des troubles ». Voilà la réponse qu'on entend souvent lorsqu'un individu est réfuté, que ce soit de la part du réfuté lui-même ou des partisans qui le soutiennent et le défendent, ou encore de la part de ceux qui refusent la réfutation et veulent qu'on se taise. Nous répondons donc à cela. Tout d'abord, ces troubles auxquels vous faites allusion ne sont pas à prendre en compte. Car nous avons précédemment vu que ce sont les textes religieux du Coran et de la Sunna authentique qui affirment le bien fondé, l'obligation et l'importance de réfuter le faux. Ce ne sont alors pas les réfutations qui divisent les gens ni leurs auteurs, mais plutôt la vérité que celle-ci démontre et défend. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Les hommes formaient à l'origine une seule communauté croyante, mais ils divergèrent. Alors Allah envoya des prophètes pour annoncer le paradis et mettre en garde contre l'enfer. Et il fit descendre avec eux des livres contenant la vérité afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Mais ce sont ceux-là même qui reçurent le livre, qui par transgression divergèrent à son sujet en dépit des preuves manifestes qui leur furent apportées. Allah tabaraka wa ta'ala a donc révélé les livres et envoyé les prophètes et messagers dans le but de clarifier la vérité qui discerne le vrai du faux, qui discerne entre la guidée de l'égarement, entre le licite de l'illicite, entre le croyant du non-croyant, entre le sunni de l'innovateur. Discerner entre le vrai et le faux est même une caractéristique spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Infinie est la bénédiction de celui qui a révélé graduellement à son serviteur le critère afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a donc appelé son livre Furqan, le critère, qui est ce qui permet de distinguer entre les choses. Allah azza wa jal dit aussi: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Jamais Allah ne laissera les croyants dans l'état dans lequel vous vous trouvez. La confusion entre croyants et hypocrites ne durera jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Les épreuves et les troubles sont donc obligatoires, ils sont inévitables. C'est dans ce but qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les livres, envoyé les prophètes et clarifié la vérité aux gens, afin de distinguer celui qui est sur la guidée de celui qui est sur l'égarement, celui qui est sur la droiture de celui qui se fourvoie, le croyant du non-musulman, le pieux du pervers, le sunni de l'innovateur, etc. Celui qui prétend que les réfutations causent la division doit donc savoir qu'en disant cela, il refuse la vérité, étant donné que réfuter le faux est un éclaircissement de cette vérité et une mise en garde contre le faux. Si la vérité divise les gens, il est donc inévitable que tous les moyens menant à clarifier celle-ci divisent eux aussi les gens. Voilà pourquoi on dit que cette parole n'est pas recevable et que ces troubles auxquels il est fait allusion pour rejeter la réfutation ne sont pas à prendre en considération. Au contraire, toute personne a pour devoir de s'unir sur cette vérité et de ne pas s'en détourner. Et il ne faut pas comprendre de cela que la division est bien et permise. Son interdiction a été affirmée dans de nombreux textes religieux du Coran et de la Sunna authentique, comme la parole dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves manifestes leur furent venues. À cela, un immense châtiment est réservé. Celui qui se détourne de la vérité est donc celui qui divise. On lui demande alors de délaisser cette division et de s'unir avec le groupe. La religion n'appelle pas à la division et la divergence. Au contraire, elle appelle à l'union et la coalition sur la vérité. Il n'est alors pas légitime de dire qu'en réfutant le faux, on divise. Il incombe plutôt de s'unir sur cette vérité défendue dans les réfutations. D'ailleurs, même si nous accordions une seconde que les réfutations amènent des troubles qui doivent être pris en considération, ne sommes-nous pas d'accord que l'altération de la religion est plus grave que la division que pourrait causer la réfutation de cela? Bien évidemment que oui. Donc l'intérêt de préserver la religion du faux prédomine sur la division que sa réfutation pourrait engendrer. La règle religieuse dit effectivement, lorsque deux troubles sont en conflit, on repousse celui qui cause le plus de dommages en appliquant celui qui en cause le moins. Quand on observe alors les préjudices que causerait le fait de se taire sur le faux, on constate sans aucun doute qu'ils sont plus importants et graves que ceux qui pourraient découler de leur réfutation. De plus, lorsque certains disent que les réfutations divisent, n'argumentent-ils pas en disant que la division est interdite? Pourtant, celui qui divise les gens est celui qui ramène quelque chose de nouveau, celui qui se détourne de la vérité sur laquelle était uni le groupe avant sa venue. Avant l'apparition des innovations, par exemple, les compagnons étaient tous sur la même voie. Ils avaient tous le même credo et la même méthodologie. Ils avaient tous les mêmes principes et suivaient tous le même chemin droit. C'est lorsque les innovateurs ont apporté des choses nouvelles dans la religion que les musulmans ont commencé à se diviser. Pourquoi alors demander de se taire à ceux qui démontrent cette division et la réfutent, et dire que ce sont eux qui divisent les musulmans en faisant cela? Il faut plutôt se tourner vers les vrais fautifs, ceux qui se détournent de la vérité sur laquelle les musulmans sont unis, ceux qui apportent des innovations et sèment le désordre et causent les troubles. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Enfin, si on s'interroge sur la réelle teneur de cette parole, les réfutations causent la division et n'apportent que des troubles, on constate qu'elle n'amène qu'à ouvrir la porte au mal, à laisser le faux se répandre, et à laisser n'importe qui dire ce qu'il veut dans la religion. Mais comme ceux qui tiennent ces propos ne peuvent pas dire d'emblée « Ne mettez pas en garde contre le faux, ne réfutez pas les innovateurs », ils avancent alors ces ambiguïtés pour rejeter les réfutations et empêcher les gens de clarifier la vérité et dénoncer le faux. On voit donc que cette parole est très grave. En réalité, c'est même une parole qu'un musulman ne devrait pas tenir. Il devrait au contraire faire barrage aux détracteurs et réfuter leurs égarements. Il n'a pas le droit de faire barrage à ceux qui alertent les gens sur les égarements, conseillent et clarifient la vérité et dénoncent et réfutent le faux. Mais parmi les choses étonnantes de cette époque, on voit que les réprimandes, les blâmes et les critiques sont orientées vers celui qui conseille et clarifie la vérité au lieu d'être tournées vers celui qui cause la division et innove en religion. Aussi, parmi les ambiguïtés les plus entendues à ce sujet, il y a réfuter les gens et mettre en garde contre eux est en réalité de la médisance interdite. Voilà encore une parole qu'on entend souvent lorsqu'un individu est réfuté. On nous répond « Ittaqillah, crains Allah, tu es en train de faire de la médisance à son encontre. » Nous répondons donc à cela, celui qui a rendu la médisance interdite, n'est-il pas celui qui a réfuté les erreurs et mis en garde contre leurs auteurs? Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre « Wala yartab ba'dukum ba'da » أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ فَكَرِهْتُمُهُ. Ne médisez pas les uns des autres. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Malgré cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala a réfuté le faux, même s'il survenait de personnes vertueuses telles que les prophètes. Allah Azza wa Jal a dit à propos de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ayyuha an-nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, tabtaghi mardata azwajik. » Ô prophète, pourquoi, recherchant le contentement de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a permis? Celui qui a donc rendu la médisance interdite est celui qui a réfuté les erreurs et mis en garde contre leurs auteurs. D'ailleurs, les savants sont eux aussi unanimes sur l'interdiction de la médisance. Toujours est-il qu'ils sont unanimes aussi sur le bien fondé, l'obligation et l'importance de réfuter le faux, comme nous l'avons vu précédemment. La médisance et la réfutation sont donc deux choses bien distinctes, dont le bien fondé et le jugement ont été démontrés dans de nombreux textes religieux du Coran et de la Sunna authentique et sur lesquels les savants sont unanimes. Aussi, il faut savoir qu'en réalité, cette parole est une ambiguïté venue des soufis. En effet, il a été rapporté que le premier à avoir dit cette parole est Abu Turab al-Narshabi. Lorsqu'il est venu voir l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, alors qu'il était questionné sur le cas de certains individus et qu'il répondait « Fulan da'if wa fulan thiqa » « Un tel est faible et un tel est digne de confiance ». Il a alors dit à l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, « Ya shaykh, la tartab al-ulama. » Shaykh ne médit pas des savants. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, s'est alors tourné vers lui et lui a dit, « Hadihi nasiha, c'est un conseil, wa laysat biriba, ce n'est pas de la médisance. » Voyez donc comment, à l'époque, les gens de l'innovation cherchaient déjà à rejeter les réfutations en avançant des ambiguïtés. Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, a d'ailleurs écrit un magnifique épître à ce sujet qu'il a intitulé Al-Farq bayn al-Nasihati wa al-Ta'yir. C'est un merveilleux livre que tout le monde devrait avoir et devrait lire, que ce soit ceux qui ont cette ambiguïté comme ceux qui s'avancent dans la réfutation du faux. Aussi, une troisième ambiguïté qu'on entend souvent lorsqu'une réfutation voit le jour, on entend souvent les gens dire c'est des problèmes entre eux, c'est parce qu'ils se sont querellés, ils sont jaloux ou autre. En effet, on a tristement vu des réfutations et des mises en garde inutiles et illégitimes, car leurs auteurs n'étaient pas les personnes qualifiées pour prendre de telles responsabilités et parce qu'ils se sont laissés envahir par l'animosité et autres vils ressentis. C'est d'ailleurs un problème que nous aborderons dans la dernière partie de cette série de conférences, lorsque nous verrons les caractéristiques dont doit être doté celui qui réfute. Car ces derniers temps, on a malheureusement pu voir des personnes de la masse s'aventurer dans l'émission de réfutation et prétendre que n'importe qui peut en faire et qu'être un étudiant n'est pas une condition pour faire des mises en garde. Mais nous verrons tout cela plus tard en détail, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc en ce qui concerne le fait de rejeter les réfutations parce que certaines personnes les ont faites pour de mauvaises raisons ou à cause de vils ressentis, nous disons, devons-nous totalement rejeter les réfutations à cause de la mauvaise utilisation et exécution que certains en ont fait? Ceci est absurde et faux. Allons-nous mettre fin à la médecine parce que certains médecins sont incompétents, Des charlatans commettent des erreurs médicales? Personne ne dirait une telle absurdité. Il en est de même pour l'enseignement, l'industrialisation, l'ingénierie et autres. On ne va pas mettre fin à ces secteurs parce que certaines personnes opérant dans celles-ci sont incompétents, des charlatans, commettent des erreurs ou autres. Personne ne dirait de telles inepties. C'est donc pareil pour la réfutation. Le fait que certaines personnes ont fait des réfutations alors qu'elles n'étaient pas compétentes, ou alors pour de mauvaises raisons ou parce qu'elles étaient animées par de vils ressentis, ne légitime aucunement de rejeter les réfutations en bloc. La solution est plutôt d'alerter sur ces dérives extrémistes de Haddadi, amenant à critiquer injustement et sortir du manhaj des personnes sans motif valable. Il faut corriger ces manquements tout en expliquant le bon comportement et les belles caractéristiques dont doit être doté celui qui fait une réfutation. Et en continuant d'accorder de l'intérêt aux réfutations bien menées par les personnes compétentes aussi. Comme pour celui qui se convertit à l'islam pour de mauvaises raisons, on ne va pas lui dire « Arrête d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala » parce que tu t'es converti pour de mauvaises raisons. On va plutôt lui expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles on se convertit à l'islam et comment on adore Allah tabaraka wa ta'ala exclusivement. C'est pareil pour les réfutations. Une autre ambiguïté qu'on entend souvent à ce sujet, c'est les réfutations détournent de ce qui est plus important, comme la propagation du tawhid, l'apprentissage de la science et autres. On entend souvent les personnes reprocher à ceux qui ont fait une réfutation de leur dire « Qu'as-tu laissé comme trace dans l'enseignement? Pourquoi ne te préoccupes-tu pas de l'enseignement du tawhid, de la science bénéfique et autres ?» Ou encore le fait d'accorder de l'importance aux réfutations détourne de l'apprentissage véritable, accorder du temps à ces choses-là pour savoir de qui je dois prendre ma religion ou autre. Ce n'est pas le plus important, je vais apprendre le tawhid, c'est les questions qui vont m'être posées dans la tombe. Voilà une parole qu'on entend souvent malheureusement lorsqu'un individu est réfuté. Mais ce que les personnes n'ont pas à l'esprit quand elles disent de telles paroles est qu'avant d'étudier la science, il faut d'abord savoir auprès de qui on peut l'apprendre. Pour ne pas l'apprendre de personnes qui ne sont pas qualifiées, de personnes qui manquent d'enracinement et se trompent, qui ont des ambiguïtés ou des innovations. La réfutation permet donc de savoir de qui on peut prendre la religion, et ceci est ce qui confirme encore un peu plus son bien fondé, son obligation et son importance. Cependant, il convient d'attirer l'attention sur un point important à ce sujet, car on voit tristement certains frères et sœurs aussi être tout le temps aux aguets et s'occuper principalement, voire uniquement, des réfutations. Alors qu'à côté de cela, ils ne maîtrisent pas les fondements de la religion. En plus de cela, ceux qui tombent dans ce souci, qui parlent sans cesse de réfutation et du cas de tel et tel individu, sont souvent les derniers à maîtriser le sujet de la réfutation et de ses règles. Ils parlent de cela alors qu'ils n'ont étudié aucun livre dans la science du Jarh wa Ta'dil et ne maîtrisent rien des règles de cette science. Toutefois, la mauvaise attitude et pratique que ces personnes ont des réfutations ne légitime pas de rejeter les réfutations en bloc, comme nous l'avons dit précédemment. La solution est plutôt d'accorder l'importance exigée aux réfutations bien menées par les personnes compétentes, tout en apprenant les fondements de la religion. Pour finir, une cinquième ambiguïté qu'on entend souvent lorsqu'une réfutation voit le jour, ils réfutent leurs frères musulmans alors qu'ils ne s'occupent pas du cas des non-musulmans. Il faudrait plutôt se charger des non-musulmans ou du cas des innovateurs bien établis qui se revendiquent eux-mêmes de groupes égarés plutôt que de se focaliser sur les musulmans qui se revendiquent de la sunna que ce sont des frères étudiants ou autres. Voilà encore une parole qu'on entend souvent lorsqu'un individu est réfuté. On arrive même à entendre des excuses comme « c'est un frère salafi, c'est un étudiant, il est diplômé de telle faculté islamique, il a étudié auprès de tel savant. » On n'a jamais entendu ces propos de sa part, on ne connaît de lui que du bien. Tous des arguments qui n'en sont pas en vérité. Ce n'est pas parce qu'une personne s'apparente aux gens de la sunna qu'elle en fait véritablement partie. Ce n'est pas parce qu'une personne se prétend être un étudiant qu'elle ne commet pas de faute. Ce n'est pas parce qu'une personne a étudié dans une faculté islamique ou auprès d'un savant qu'elle ne se trompe pas. Ce n'est pas parce qu'on a entendu ou vu du bien d'une personne qu'elle ne fait que cela. Ces excuses n'ont donc aucun pesant face à une réfutation argumentée. Au contraire, le fait de s'occuper des musulmans est plus conforme et sensé que de s'occuper du cas des non-musulmans. Étant donné que le cas de ce dernier, les non-musulmans, il est clair. Personne ne va se faire duper par les ambiguïtés d'un non-musulman, car on sait qu'il n'a pas les mêmes convictions. Tandis que le mal et les ambiguïtés de celui qui s'affilie à l'islam ou à la sunna, qui s'apparente à la salafia, sont plus dissimulés et peuvent facilement se propager. Voilà pourquoi il est important d'alerter sur l'erreur que commet une personne qui s'affilie à l'islam ou à la salafia, afin qu'elle ne soit pas prise, que cette erreur ne soit pas prise pour vérité et se propage. D'ailleurs, ces derniers temps, on a pu voir des personnes qui avaient commis des erreurs être réfutées, et en réponse à cela, elles n'ont trouvé à avancer que des propos menant au laxisme et des paroles de savants qu'elles ont sorties de leur contexte ou instrumentalisées. Comme celui qui, pour sauver sa personne, est tenté de repousser les réfutations, est allé jusqu'à dire « Réfuter les salafis n'est pas la méthode que l'on a vue de nos grands savants. » Voilà ce que certaines personnes qui s'affilient à l'étude de la science ont osé dire lorsque ils ont été réfutés. Réfuter les salafis n'est pas la méthode que l'on a vue de nos grands savants. Alors que ceci est totalement faux. Nous avons précédemment vu le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors des gens de science, des étudiants, des prédicateurs et autres personnes qui lui sont inférieurs en degré? Il ne faut donc pas se laisser berner par les ambiguïtés que certains avancent pour défendre leur personne. Ce n'est pas parce que des savants tels que Shir ibn Baz, Shir al-Fawzan ou autres ne se sont pas adonnés à la réfutation, comme se sont adonnés certains autres savants, que c'est la méthode que tout le monde a eue et doit avoir. Regardez par exemple l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Nul doute que c'est un grand érudit de cette communauté. Et pourtant, il a réfuté et boycotté les plus grandes sommités de son époque, lorsqu'ils ont accepté de dire par contrainte que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est sa parole incréée, mais que la prononciation est elle créée, comme c'était le cas de Yahya ibn Ma'in et Ali ibn al-Madini. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, les a quand même réfutés, alors que ce sont deux grands imams de la sunna. Ou encore, lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a réfuté l'imam Zuhayr ibn Harb et l'imam Ishaq ibn Abi Israël al-Marwazi. Ou encore, lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a écrit toute une réfutation contre l'imam Ali ibn al-Ja'd al-Jawhari. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ne s'est donc pas tu sur leurs erreurs, et cela, même s'ils étaient tous sur la sunna et tous des grands savants à son époque. Comment prétendre alors, après cela, que ce n'est pas la méthodologie de nos grands savants? C'est faux. C'est un vil argument pour tenter de défendre sa personne et détourner les gens de la vérité les concernant. Une erreur, c'est une erreur. Elle doit être corrigée, et cela peu importe de qui elle émane. Quant à la personne qui l'a commise, elle se doit de revenir modestement vers la vérité. Même si, malheureusement, la réfutation est faite par des personnes qui n'ont pas les qualifications pour et qu'elle est mal menée. Ikhwatil Kiram, donc, dans cette allocution, nous avons pu répondre à certaines ambiguïtés, ou du moins aux ambiguïtés les plus répandues et les plus entendues à ce sujet. Aussi, lors de la prochaine allocution, nous verrons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala le comportement à adopter dans la réfutation et les caractères dont doit être doté celui qui l'amène. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.